Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Compris à l'écoute de cette introduction fort célèbre, nous allons évoquer cette semaine la destinée d'un musicien guinéen dont la renommée explosa à l'échelle planétaire grâce à ce titre, Yeke Yeke, paru en 1987 sur l'album Aquaba Beach. Cette figure éminente de l'épopée des musiques noires s'appelait Mori Kante et nous lui rendons hommage aujourd'hui. Mori Kante connut un succès retentissant grâce à ce refrain imparable, il serait injuste de réduire son aventure artistique à cette seule composition. Nous allons donc remonter dans le passé à une époque où le Rai Band de Bamako faisait danser la jeunesse malienne et permettait à l'apprenti Mori de faire ses premières armes. Saxophoniste et chef d'orchestre du Rai Band, Tidiane Kone, qui pressent le talent du jeune Mori Kante et l'invite à entrer dans cette formation très en vogue au tournant des années 70. Salif Keïta est le chanteur principal du groupe et pour le moment, Mori Kante se contente d'observer et d'accompagner modestement ses nouveaux comparses. Il n'a que 21 ans et doit trouver sa place dans cet ensemble musical fort prometteur. Il a cependant pour lui l'héritage culturel transmis par ses aînés. Comme il nous le confiait il y a quelques années à notre micro, la musique était en lui dès son plus jeune âge.
Je suis né de père et de mère musiciens. Les griots, c'est des musiciens. Être griot, d'abord, ça a un impact très étroit avec la musique. Car avant, chez nous, au Mandingue, c'est les griots qui avaient le droit de faire la musique. Que les griots seulement. Donc, depuis plus d'une dizaine de générations, je suis griot. Donc, je suis musicien. Donc, l'aîné de notre famille a fait le tour du monde dans les années 40-50. Il était le directeur des ballets africains de Guinée. Donc, il a fait le monde entier. Et lui a amené la guitare dans notre famille. Et vraiment, on a été familiarisés avec les autres musiques du monde.
Thank you.
Après le départ de Salif Keïta du Rai Band en 1973, Morikante se voit propulsé nouveau chanteur de l'orchestre et délaisse progressivement le balafon pour la kora, dont il tient à maîtriser toutes les harmonies. Désormais, sur le devant de la scène, il apprend à esquiver les critiques et à accueillir les compliments. Certains lui contestent son statut de griot, d'autres le célèbrent nouveau roi de la kora. Ces années au sein du Rai Band seront donc très formatrices pour ce jeune homme plein d'espoir qui a connu les indépendances africaines et compris très vite que les traditions musicales pouvaient s'enrichir d'influences culturelles échappées d'autres territoires dans le monde. Bien qu'il fût parfois critiqué, Morikante réalisa très tôt que l'ouverture était une opportunité et les expérimentations sa chance.
Après cette décolonisation, donc, tous les pays mandingues ont eu leur indépendance et ce fut la fusion culturelle partout en Afrique. Il y avait la musique cubaine, afro-latino, donc on écoutait le jazz, on écoutait... Vraiment, c'était un grand départ et on avait les oreilles à travers le monde. Et aujourd'hui, ce qui m'impressionne beaucoup, franchement, c'est ce mélange-là. Je vois la musique africaine dans les autres musiques, dans la musique internationale, dans la grande musique contemporaine. Et je trouve que, en travaillant avec beaucoup de musiciens à travers le monde, en faisant les grands studios, j'ai vu de très grands studios et j'ai travaillé avec de très grands musiciens, de très grands réalisateurs de musique, donc des directeurs artistiques. Donc vraiment, j'ai vu que le reste du monde a une place pour la culture africaine. Et la musique africaine aussi doit avoir une place, hein, chez elle pour les autres musiques. C'est ce qui m'impressionne et je trouve, et ça me met à l'aise dans mon travail et je trouve que c'est extraordinaire.
Au fil des années, Morikante enfonce le clou. Il continue de se nourrir de sonorités très diverses aux grandes dames, des puristes qui lui reprochent de se détourner des traditions. Mais il fait valoir sa filiation à ses ancêtres griots et insiste sur ce qu'il appelle l'hérédité culturelle humaine pour contrer les critiques de ses détracteurs. Lors de notre dernière entrevue, il avait tenté de nous expliquer ce que sa musique exprimait et combien sa philosophie de vie épousait toutes les composantes d'une vision spirituelle de l'art.
Il y a non seulement le phénomène artistique, le phénomène culturel, le phénomène technique et le phénomène philosophique qui jouent dans cet aspect de la façon de voir l'évolution de la musique contemporaine. Le phénomène d'abord culturel, cela va sans dire que l'humanité va vers le rapprochement. C'est un dessin que je vois, c'est quelque chose que je sens. L'humanité, tel que soit son développement, tel que soit sa carrière économique, va vers un rapprochement. Et ce rapprochement explique que nous sommes tous les êtres humains sur cette planète. Nous sommes tous d'une grande famille. C'est la famille de l'hérédité culturelle humaine. Ça veut dire que c'est la culture qui mène l'être humain, parce que nous sommes de cette hérédité culturelle. Nous avons ce gène en nous. Mais cette famille, cette grande famille de l'hérédité culturelle humaine est un aspect global mais multiforme. Donc, ce consensus a besoin maintenant de sa globalité. Un deuxième rapport est l'aspect technique. Toutes les machines que nous avons, ce n'est jamais écrit sur ces machines-là interdit à l'homme et à la musique africaine. Aucun ordinateur ne rejette vraiment, en réalité, tout ce qui est son. On en a besoin pour évoluer. Hein? Donc, le fait que le monde ait besoin aujourd'hui de l'Afrique, c'est qu'ils ont d'abord le moyen de venir vers l'Afrique. Le troisième élément est cet aspect économique dans l'art et la culture, donc dans la musique. Économique, pourquoi? Parce que si nous faisons un grand retour en arrière, c'est que nous voulons être vrais. D'abord, ça a permis à mieux économiser, ça c'est vrai, et aussi à mieux se retrouver. L'autre aspect, c'est l'aspect artistique. L'artistique aussi est dans ce consensus d'hérédité culturelle humaine. Nous nous ressemblons quelque part sur le plan culturel, tous les hommes de cette planète. Donc, quand moi je vois ce retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que quand aujourd'hui, dans notre présent, nous pouvons, pour mieux attaquer l'avenir, faire un retour en arrière, donc cela veut dire que la culture est la voie qui mène tous les peuples à la compréhension. Et cette culture, cette hérédité culturelle humaine peut changer beaucoup de choses vers la paix, peut donner une certaine réflexion à l'humanité de pouvoir communiquer dans le vrai sens de la communication. Et philosophique pour terminer, moi je suis un griot, et nous avons reçu une éducation très spirituelle et philosophique. Donc cela va sans dire que nous sommes des êtres humains animés de quatre éléments qui sont essentiels, l'âme, le corps spirituel, le corps physique et la nature qui est vraiment notre environnement. Donc c'est les quatre éléments qui sont l'essentiel pour l'homme. Je crois que ce n'est pas une petite sauge que le monde essaie de voir vraiment la réalité africaine dans la culture en ce moment. C'est très important.
Que l'on pense du discours de Morikante, il est clair que ces mots cherchaient la concorde entre les peuples et l'apaisement quand trop de voix s'élevaient pour lui dénier sa légitimité d'artiste. L'enfant terrible, tel que la presse le surnommait à l'aube des années 80, avançait pourtant pas à pas et parvenait à séduire un public de plus en plus large. C'est en 1981 que son épopée s'accélère. Le label américain Ebony Records s'intéresse à lui et lui propose un contrat discographique qui lui permet de toucher un auditoire international. L'album Kourou Nyenye sera le premier pas vers une audacieuse relecture de la tradition musicale mandingue. Si cette première tentative d'exporter son patrimoine ancestral au-delà des frontières continentales africaines ne lui apporte que peu de reconnaissance unanime, c'est à Paris que Morikante espère un accueil plus généreux. Il arrive à l'hiver 1984 en France. Il n'est pas connu et peine à convaincre ses interlocuteurs de le laisser donner des concerts et d'enregistrer. Il réussit cependant à persuader le producteur Aboudou Lassissi de l'écouter et de concocter un album. Écoutez actuellement est la première mouture d'un tube qui fera le tour de la planète 3 ans plus tard. Mais nous ne sommes qu'en 1984 et Morikante cherche encore à gagner en notoriété. Il a cependant la chance de découvrir un paysage musical français très ouvert. Ce que l'on appelle maladroitement la world music résonne sur les ondes FM fraîchement libérées du monopole d'État par la volonté du président Mitterrand. La diaspora africaine parisienne profite de cette atmosphère clémente pour faire entendre ses trésors musicaux. Touré Kounda, Angélique Kidjo, puis Youssou N'Dour seront les étoiles lumineuses de cette Afrique à Paris. Morikante accueille avec bonheur cette effervescence providentielle et accepte avec gourmandise les sollicitations. Le chanteur Jacques Higelin le convie sur scène à Bercy. Manu Dibango l'invite à participer à Tam Tam pour l'Éthiopie aux côtés de Relema et Salif Keïta entre autres. Son nom circule dans le petit monde de l'industrie du disque. Finalement, après des mois de patience ponctués par des prestations de plus en plus nombreuses, Morikante signe chez Barclay et fait paraître l'album qui va tout changer. Tandis que Morikante triomphe avec Yeke Yeke, d'autres artistes se laissent joyeusement emporter par la vague africaine qui submerge l'Europe. Le chanteur britannique Peter Gabriel suggère à son nouvel ami Youssou N'Dour d'interpréter le titre « Shaking the Tree ». Morikante ne fut pas étonné de cette propension des artistes européens et américains à matiner leurs œuvres de couleurs africaines. Le choix de Peter Gabriel lui paraissait finalement très logique.
Il a compris ça parce que non seulement il est artiste, il y a Sting aussi. Il y a d'autres gens dans tant de domaines qui ont compris la force de l'homme. L'être humain n'est vraiment fort que s'il se rend compte d'une certaine qu'il est vraiment humain. Et ça, pour s'en rendre compte, il faut connaître les 4 éléments. Le premier élément est l'âme. L'âme qui nous anime, qui est un corps, qui est une énergie, un don de Dieu. Cette énergie est inodore et incolore. Tellement qu'elle est pure, elle n'a même pas d'environnement. Parce qu'elle ne peut se rester nulle part, une âme. Aucune bouteille, une éprouvette scientifique ne pourra maîtriser une âme. quel que soit le temps, quel que soit le moment, donc l'âme peut quitter. Et où va l'âme? L'âme, de par sa pureté, n'a pas d'environnement. Ni le développement, ni le sous-développement n'est son environnement. Son environnement, c'est les autres âmes. C'est pourquoi l'homme est devenu, pour l'homme, l'indispensable. Telle que soit notre grandeur, telle que soit notre faiblesse, l'homme a toujours eu besoin d'homme. Et cette âme-là, cette énergie qui gère tous nos acquis, qui gère tous les phénomènes qui nous entourent, qui est le vrai gérant de la vie humaine, anime mais ne commande pas notre deuxième corps. Ce deuxième corps est le corps spirituel. Ce corps spirituel qui est l'essence de la culture humaine, qui est l'essence de cette famille, la famille de l'hérédité culturelle humaine. Ce corps spirituel qui anime notre âme, ce corps spirituel a fait de l'homme l'être le plus intelligent. Et jusqu'à ce que nous avons créé, pour prouver qu'on est intelligent, on a créé d'autres intelligences qui sont des ordinateurs, qui ont des milliards de programmes. Et tellement qu'on a avancé, on veut découvrir d'autres univers, on a fait un petit pas sur la Lune en laissant trop de problèmes sur la Terre. Et en plus, je peux dire que si le corps spirituel était un ordinateur, il n'aurait eu que deux programmes, le bien et le mal. Il faut que l'humanité choisisse le bien. Et en choisissant le bien, on choisit l'hérédité culturelle humaine pour la communication. Et en plus, ce corps spirituel qui fait le tour du temps, on peut être là, voir, imaginer. Notre imagination, grâce à l'âme, peut aller très très loin. Et nous jugeons de quoi? Nous jugeons de quelque chose qui se trouve dans le temps. Le temps est perpétuel, matin, midi, soir, depuis des milliards d'années. Et dans ce temps, il y a quelque chose qui appartient à l'homme. C'est le moment. Le moment appartient à l'homme de réfléchir, de voir le concret. Le concret, c'est l'homme. Tout ce que nous faisons, l'aboutissement, c'est l'homme. Et ce corps spirituel, maintenant, commande notre troisième corps, qui est le corps physique. Et qui est le corps qui se désintègre. Et on appelle cela la mort. La spiritualité reste, les écrits restent, la culture reste. Et l'âme reste. L'âme reste parce qu'on se souvient toujours que cette personne a eu une âme. Peut-être que la personne a usé de sa vie d'un état d'âme ou bien d'une vraie âme. Donc je trouve que ce que Peter Gabriel et les restes font pour la culture universelle, ce retour à l'Afrique, est très symbolique. Donc ça, c'est l'explication d'un griot que je donne à propos de cette œuvre.
À l'issue de notre ultime rencontre, Mori Kante souhaitait délivrer un message à ses nombreux admirateurs. Lui qui avait arpenté les scènes du monde entier, de New York à Helsinki, Montreux, Montréal ou Alger, eut le temps de constater les disparités sociales des différents pays qu'il traversait. Son statut d'ambassadeur auprès de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, lui avait donné l'élan d'un engagement citoyen constructif. Et chaque fois qu'un micro lui permettait d'exprimer ses convictions, il s'en emparait pour appeler à l'unité sur cette planète dont il avait fait maintes fois le tour.
Ce qui me ferait plaisir aujourd'hui, c'est la paix au monde. Ça me ferait beaucoup plaisir. Parce que ce problème de paix-là, tout le monde en parle de la paix. Et on y va, on trouve que c'est sans issue. Et moi, je trouve qu'il y a une solution, parce que la solution est plus vieille que le problème, selon nous, les griots. Et pour la paix, il y a une solution. D'abord, que le monde comprenne que la recherche, le développement, n'a empêché quiconque d'être un homme de paix. Car la paix, c'est un comportement. Étudiez cela. Ceux qui sont riches, on ne doit pas bannir cet aspect de richesse. Tout est donc de l'acquis de la société humaine. Et faut que nous pensions à la valeur de l'homme. Et ce n'est pas difficile à faire comprendre. Il y a une éducation que l'homme a perdue au fil des temps. Nous avons une hérédité. Et cette hérédité, nous pouvons soigner notre hérédité de par la spiritualité. Et cette spiritualité, je crois qu'elle est très, très, très facile. C'est de se rendre compte que nous sommes des hommes et que nous ne pouvons rien faire sans la culture. De donner une grande importance à la culture humaine. C'est ça le chemin. C'est ça la vraie voie. C'est ça qui peut faire penser. C'est ça qui peut changer le cours de l'histoire humaine vers la paix, la culture. Regardez par exemple, quand un chanteur parle, un homme politique parle, c'est carrément différent. Et même cette politique, on ne pourra jamais la faire sans culture. Et cela va sans dire que moi, ma tenue, mon pantalon, ma veste, ce que je porte, c'est du blanc. Et aujourd'hui, vous, vous êtes devant moi, vous êtes un blanc, moi je suis un noir, mais vous êtes habillé en noir. Et que je ne serai jamais noir comme votre chemise ou votre veste. Et vous ne serez jamais blanc aussi comme mes habits, comme mon pantalon ou ma veste. Et donc, le problème de couleur est un problème intrinsèque par des problèmes réels. Donc, ce qui fait que on ne peut en vouloir à personne de tout ce qui se passe, mais s'il y a une faute commise, c'est l'humanité. Et cette humanité peut être soignée, on peut soigner tout ce que nous faisons par le biais de la culture. Je vous jure que l'essence culturelle peut beaucoup amener à la paix. Tout finit, sauf la culture. La culture, elle est née, elle s'émancipe, mais elle ne meurt jamais. La culture reste.
Dernière jolie prestation de Morikante sur disque remonte à 2019. Il avait alors participé à un conte pour enfants intitulé Cocorico, balade d'un griot, dont les textes étaient lus par le comédien Reda Kateb. Ce projet reçut le coup de cœur de l'Académie Charles Cros. Quelques mois auparavant, il était encore sur scène aux côtés du maestro Bonkana Maïga pour raviver la flamme des Maravillas du Mali. Morikante n'a jamais cessé de se produire, de se raconter, comme pour perpétuer l'âme des griots dont il se voyait l'un des légataires universels. Le 22 mai 2020, à 70 ans, la voix de Morikante s'est tue, mais son souvenir résistera à l'érosion du temps. Yeke, la dernière version du tube Yeke Yeke enregistré par Morikante pour le conte Cocorico, balade d'un griot, paru en 2019. Je tiens à remercier ici Nathalie Laporte qui a su redonner de l'éclat à cette épopée hommage. La semaine prochaine, nous saluerons la mémoire d'un autre grand personnage disparu en 2020. Il s'agit du chanteur, auteur, compositeur, poète Bill Withers que nous évoquerons avec l'un de ses disciples, le chanteur José James. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.